France Culture.
À voix nue, Géraldine Mosna-Savoie.
André Comte-Sponville, philosophe.
Premier épisode, le petit André. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
Le premier contact que j'ai eu avec votre philosophie remonte au collège, peut-être même avant. Perdu entre les romans de la bibliothèque, il n'y avait que des romans chez moi, se trouvait votre petit traité des grandes vertus, paru en 1995. Preuve donc que vous étiez parvenu à franchir les limites de cette discipline, trop abstraite ou trop érudite, à ouvrir l'essai philosophique au grand public, à poser la question que chacun se pose, comment être heureux ici et maintenant ? Car votre petit traité s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, il vous a permis de quitter l'enseignement et de faire ce que vous avez toujours voulu faire, écrire. Continuez à écrire ce que, dès 1984, vous aviez exposé avec votre tout premier livre, Le traité du désespoir et de la béatitude, une philosophie du gai désespoir. En presque 50 ans de pratique, des années 70 de marxisme aux années 2020 de pandémie, à travers une trentaine d'ouvrages et des centaines d'interventions, vous avez bâti une œuvre singulière, une œuvre de philosophie morale, ou plutôt une éthique au plus près de la vie. Mais vous, André Comte-Sponville, quel a été votre tout premier contact avec la philosophie ?
C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une partie de tempérament. J'ai un tempérament volontiers contemplatif, méditatif, donc qui débouche sur la philosophie. Mais pour ce qui est du premier contact vrai, incontestable avec la philosophie, je pense que c'est la lecture des pensées de Blaise Pascal. Je devais avoir 16 ans, peut-être 17, mais je pense plutôt 16 ans. J'étais donc au lycée, en classe de seconde ou de première, catholique. À l'époque, croyant, très, très pieux, militant à la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et j'ai eu la chance ces années-là d'avoir à mon lycée un aumônier formidable, qui était le père Bernard Feuillet, qui est mort maintenant, mais qui est resté un ami très cher, qui m'avait conseillé de lire les pensées de Pascal. Et donc j'ai pris ce livre que j'ai lu en entier et qui m'a bouleversé. Donc voilà, je crois que c'est le premier vrai contact avec un philosophe incontestable, même si, comme vous le savez, le statut de Pascal dans la philosophie est un peu singulier, mais personne ne contestera qu'il soit philosophe.
Je vous ai présenté
un peu comme moi, oui, enfin, toute proportion bien gardée, mais en tout cas, c'est vrai que je m'inscris bien dans cette tradition-là, ce que j'appelle la tradition française en philosophie, qui est dominé par trois sommets primordiaux, qui sont Montaigne, Descartes, Pascal, les trois très différents, mais les trois ayant un certain nombre de qualités communes, qui sont des traits presque constants de la tradition française, très différentes de ce point de vue, d'autres traditions très glorieuses, la tradition allemande et la tradition anglo-saxonne spécialement.
Alors, si je vous pose la question de ce tout premier contact avec la philosophie, André Comte-Sponville, c'est que dans votre famille, il n'y avait pas de philosophe, rien ne vous destinait à faire de la philosophie, à passer l'agrégation, à devenir en fait le philosophe que vous êtes devenu.
Non, rien du tout, mes parents n'étaient pas du tout des intellectuels, aucun de mes parents n'avait le baccalauréat, aucun fortiori n'avait fait d'études supérieures. Ils étaient commerçants, en l'occurrence marchands de couleurs, comme on disait à l'époque, je ne sais même pas si nos auditeurs savent ce que c'est, des fois on disait des drogueries. Voilà, et mon père avait d'abord été détaillant, marchand de couleurs, et puis avait acheté 2, 3, 4 boutiques, mis en gérance. Il était devenu grossiste, c'est-à-dire qu'il livrait les autres marchands de couleurs. Mon père s'intéressait beaucoup à l'histoire, à la philosophie, pas du tout. Et donc, non, je n'étais pas programmé pour ça, voilà.
Alors, d'où vous est venu, vous l'avez dit, vous avez parlé de cette rencontre avec Pascal, mais il y a quand même un goût pour la lecture, un goût pour l'écriture, quelque chose quand même de plus intellectuel que ce qu'il y avait chez vos parents.
Il y a d'abord un goût pour la lecture, oui.
Ça, vos parents vous l'ont quand même donné ou c'est quelque chose que vous avez découvert par vous-même ?
Peut-être un peu les deux. D'abord, qu'on ne peut lire que par soi-même, hein, mais c'est vrai que l'auteur qui va me bouleverser le plus dans mon enfance, c'est Alexandre Dumas. Et mon père adorait Alexandre Dumas. Donc c'est au moins l'un des rares goûts qu'on avait en commun, parce que pour le reste, on était d'accord sur rien. Et c'est vrai que j'étais un grand lecteur, entre autres, parce qu'on en parlera peut-être, j'avais une vie familiale un peu sombre, dominée par le rapport difficile entre mes deux parents, par la dépression de ma mère. Et donc j'avais tendance un peu à me réfugier dans la lecture que j'ai aimée passionnément. Et comme j'étais un grand lecteur, et que par ailleurs j'avais aussi des problèmes d'élocution. Quand j'étais petit, je parlais mal, les gens ne me comprenaient pas. Mon père d'ailleurs se moquait cruellement de moi pour cette raison. Et donc, comme je constatais que j'étais incapable de me faire comprendre à l'oral, je me suis dit, ben voilà, je vais devenir écrivain. Comme ça, je pourrais m'exprimer par l'écrit. Donc, j'ai rêvé toute mon enfance de devenir écrivain. Et comme à l'époque, je ne lisais que des romans, évidemment, ben, je me rêvais romancier. Et c'est quand j'ai découvert la philosophie, alors un peu en lisant Blaise Pascal, mais encore plus en entrant en terminale au lycée, que j'ai un peu viré ma cutie. Tant la philosophie m'a passionné encore plus que la littérature. Au fond, si je peux le formuler rétrospectivement, ce que je me dis maintenant, c'est à quoi bon inventer des histoires quand le réel tel qu'il est, dans sa complexité, est déjà tellement intéressant, compliqué, passionnant, mystérieux. Et donc, moi qui me rêvais d'abord romancier, je suis devenu philosophe. Voilà.
Est-ce que vous vous en êtes rendu compte assez vite que le réel était beaucoup plus passionnant que la fiction, dans la mesure où, vous l'avez dit, vous aviez dit qu'on allait l'évoquer, vous avez eu une enfance assez sombre.
Oui, c'est une enfance un peu sombre, parce que ma mère était malheureuse, voilà. Et l'enfant aimant que j'étais, comme la plupart des enfants, ne pouvait pas être heureux quand sa mère était malheureuse. Et elle était malheureuse en partie parce qu'elle avait un mauvais mari, mon père, qu'à l'époque je considérais comme responsable du malheur de ma mère, et donc je lui en voulais, je le détestais pour cette raison. Mais elle était malheureuse aussi en partie pour des raisons qui tenaient à elle, c'est-à-dire qu'elle était, à mon avis, sur des positions un peu fausses concernant l'existence. Elle vivait dans une espèce de cinéma, de théâtre, d'histrionisme, comme on dit maintenant, puisqu'on n'ose plus parler d'hystérie, mais c'est la même chose en vérité. C'est-à-dire qu'elle vivait dans le semblant, dans le paraître. Elle en plaisantait elle-même en constatant à quel point elle était snob, et en même temps, elle en souffrait. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre, à aimer, à penser dans le malheur de ma mère, qui est devenue un dépressif, voilà, à la fois alcoolique, dépressive. Et donc tout ça était tout à fait douloureux. Alors quand je dis qu'elle était malheureuse et dépressive, c'est pas la même chose, le malheur et la dépression, mais on peut être dans les deux ou alterner de l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de moment de gaieté. Mais ces moments de gaieté, justement, ça sonnait faux. On sentait que c'était du chic et du théâtre. Alors qu'à l'inverse, ces moments de tristesse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc j'en avais un peu tiré la conclusion dans ma petite tête d'enfant que la vérité était du côté de la tristesse et la joie du côté de l'apparence, de l'illusion, du chic. Et donc, en un sens, j'étais mal parti dans l'existence. Et cela en rejoint la philosophie, parce que la philosophie m'a aidé à comprendre exactement l'inverse. À savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que toute illusion débouche sur une désillusion, alors qu'à l'inverse, la vérité, y compris quand elle est triste, on peut au moins la voir en face et prendre sa vie à bras le corps. C'est pourquoi je dis souvent que la philosophie a été ma bonne mère, non pas au sens où ma mère aurait été une mauvaise mère, elle était malade, mais très, très aimante, mais au sens où la philosophie m'a remis au fond sur le droit chemin qui est celui de la lucidité, voilà, plutôt que du mensonge, plutôt que de l'illusion ou du semblant.
C'est là où se joue la différence avec la fiction, c'est là, ce moment-là, dès le lycée par exemple, que vous avez ce genre. Est-ce que ça, c'est pas aussi un discours que vous avez élaboré rétrospectivement?
Oui, bien sûr. Là,
ça joue, mais sur le moment, vous vous dites quand même, voilà, je voulais écrire des romans, mais finalement, la philosophie me permet...
Ça a pris des années. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce refus du mensonge, du semblant, dont j'ai pris conscience plutôt dans mon adolescence que dans mon enfance. Dans mon enfance, j'aimais passionnément ma mère, je détestais mon père, tout était simple. Dans l'adolescence, évidemment, c'est un peu plus compliqué.
Les choses se corsent.
Vous savez, c'est la belle formule d'Oscar Wilde. Quand ils sont jeunes, les enfants aiment leurs parents. Plus tard, il les juge. Quelquefois, il leur pardonne. L'enfance, l'adolescence, la maturité. Alors, je leur ai pardonné depuis longtemps, y compris à mon père, mais ça m'a pris du temps. Mais il m'a fallu aussi prendre du temps pour renoncer à la littérature. Parce que quand je disais que j'ai viré ma cutie, ça ne s'est pas fait en un instant, ni tout d'un bloc. Pendant plusieurs années, je l'avoue, je rêvais d'être écrivain et philosophe, et romancier et philosophe. Sur le modèle, bien sûr, de Jean-Paul Sartre, qui, pour les gens de ma génération, était le contemporain capital et qui a été, en effet, avec quel talent, et écrivain, et philosophe. Et puis, le temps a passé, j'ai bien dû constater d'abord que des romans, j'en lisais moi-même de moins en moins, avec de moins en moins de plaisir. Deuxièmement, que je ne me trouvais aucune imagination romanesque. En plus, moi, les romans que j'aimais, c'était des romans où il se passait des choses. Alexandre Dumas, plutôt que Robe Grillet ou Claude Simon, si vous voulez. Et donc, je me sentais un petit peu limité pour ce qui est de l'imagination romanesque. Donc, je pense que j'avais pas de talent dans ce domaine-là. Ce qui s'est passé, c'est que les vacances entre la terminale et l'Hippocagne, j'ai commis l'erreur de lire coup sur coup La recherche du temps perdu de Proust et Mort à crédit de Céline. Et ces deux-là m'ont découragé parce que pour le coup, je ne me sentais vraiment pas à la hauteur. Bizarrement, quand je lisais les livres de philosophie de Sartre, de Camus, ou quand je lisais, je sais pas, Pascal ou Descartes, je me sentais un peu moins démuni, un peu moins rejeté dans les ténèbres. Et donc voilà, la vérité, c'est que j'ai fini par choisir ce pourquoi je me sentais le plus doué ou le moins handicapé. Avec aussi autre chose, c'est que quand j'ai commencé à écrire pour de bon, donc au lendemain de la réaction, vous avez 23, 24 ans, puis moi j'étais en quatrième année à Normale Sup, où je n'avais pas grand-chose à faire, vaguement une thèse où je m'étais inscrite, mais... Et donc, j'ai commencé à écrire sérieusement. Et de la philosophie, et de la littérature, des nouvelles, des débuts de romans, des poèmes.
Vous vous êtes dit, là, j'écris. J'ai passé les diplômes,
j'écris. Tous les matins, à 8 heures, à ma table de travail, à écrire. Tous les matins. Et j'ai constaté très vite que tout ce que je faisais en littérature était d'une tristesse infinie. C'était à pleurer. Je m'enfonçais dans une espèce de mélancolie. Alors qu'à l'inverse, ce que j'écrivais dans la même période en philosophie était au contraire tonique, dynamique.
Lumineux,
pas toujours, mais en tout cas joyeux en quelque chose. Et donc, je me suis dit, il faut aller du côté où il y a de la lumière. Plutôt que de m'enfoncer dans une littérature mélancolique pour laquelle, par ailleurs, je me découvrais peu doué, allons plutôt du côté de la philosophie, où peut-être je suis un peu plus doué, mais où surtout, où la vie devient intéressante, belle, tonique, dynamique. Voilà. Et donc, alors, tout ça s'est allé sur des années, encore une fois. Mais donc, en gros, à 30 ans, c'était clair dans ma tête, j'avais renoncé à être romancier, et j'étais de plus en plus résolument philosophe, mais tout en restant écrivain, parce que justement, dans cette tradition française en philosophie que j'évoque, l'un des traits communs à Montaigne, Descartes, Pascal, mais pour ajouter Rousseau, Voltaire, Diderot, y compris Sartre et Camus, c'est que nos meilleurs philosophes sont aussi d'immenses écrivains. C'est très rare dans l'histoire de la pensée. Les plus grands philosophes allemands, à l'exception de Nietzsche, ne sont pas de très grands écrivains. Les plus grands philosophes britanniques ne sont pas de très grands écrivains. Nous, nos plus grands philosophes sont aussi presque tous d'immenses écrivains. Et donc, j'ai renoncé à devenir romancier tout en essayant de rester écrivain. Et donc, j'aurais pu me définir au début de notre émission non seulement comme philosophe, mais comme philosophe et écrivain.
Vous avez employé ce terme, André Comte-Sponville, de mélancolique. C'est un terme que vous employez régulièrement. Vous en parlez notamment dans ce texte qui s'intitule « Maman », où vous racontez votre enfance avec votre mère, tantôt malheureuse, tantôt dépressive. Vous dites bien que ce n'est pas la même chose, comme vous venez de le dire. Vous vous décrivez aussi comme anxieux. Ce tempérament sombre dont vous parlez, est-ce que... il a changé? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que vous avez l'impression d'être né comme ça, de l'avoir combattu justement grâce à la philosophie où vous trouviez si lumineux?
Que je suis né comme ça, personne ne peut le savoir, en tout cas pas moi. Je pense que vraisemblablement, il y a une partie génétique dans l'équilibre des humeurs, comme on disait dans l'ancien temps. Mais je crois aussi qu'une enfance difficile comme était la mienne, ma mère a fait 2 tentatives de suicide quand nous étions petits, ma sœur, mon frère et moi. Et quand on vous annonce que votre mère a essayé de se suicider, quand toute votre enfance se passe surtout dans la crainte qu'elle ne recommence et qu'elle ne réussisse son suicide. Hein, moi, toutes mes années d'enfant, j'avais une peur, c'était que maman se suicide. J'en avais une deuxième, c'était que je meure moi-même pensant que ma mère n'y survivrait pas, si vous le voyez. Donc, quand vous passez toute votre enfance dans cette espèce d'anxiété, bah forcément, ça finit par agir sur vous. Est-ce que ça va mieux maintenant? Bah oui, bien sûr. D'abord parce que ma mère est morte. Il faut bien dire que toute mon enfance a été dominée par mon angoisse pour elle. Je m'angoissais pour elle. Et quand elle est morte, ça m'a fait un chagrin immense. Mais 20 ou 30 ans plus tard, bah forcément, le chagrin s'est apaisé.
Vous parlez quand même dans ce texte, maman, du fait que une boule d'angoisse a disparu.
Oui, mais ça,
quand elle
était vivante, et donc c'était quand même ma principale cause d'angoisse. Surtout quand j'avais pas d'enfants. Après, quand j'ai eu des enfants, il y a d'autres angoisses qui s'ajoutent à ça. Mais c'est vrai que souvent, quand je découvrais en moi une boule d'angoisse, je me disais, mais pourquoi je suis angoissé comme ça? Je me disais, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle maman. Et donc, je l'appelais pour évacuer l'angoisse provisoirement. Et donc, j'avais le sentiment que quand elle serait morte, ça serait pour moi un apaisement. Parce que moi, je serais libéré de ma principale cause d'angoisse. Et puis, maman se suicide. Mais là, j'avais 34 ans, réussi sans suicide, si j'ose dire. J'étais malheureux comme jamais, écrasé de chagrin, et pas du tout apaisé, comme je l'avais imaginé un temps. Sauf que, au bout de quelques mois, je me souviens, donc quelques semaines ou quelques mois après son suicide, je marche dans la rue et je vois de loin une femme que je prends pour ma mère. Je me dis, merde, maman! Immédiatement, l'angoisse était là.
Immédiatement, le merde.
Et puis, à l'instant, je me dis, mais non, c'est pas maman, elle est morte. L'apaisement est venu. Et cet apaisement que j'attendais depuis quasiment mon enfance ou mon adolescence, qui n'était bien sûr pas venu au moment du deuil, parce que le chagrin emportait tout, mais est venu en effet quelques semaines ou quelques mois après. Et puis il y a le fait, si vous voulez, que maintenant ma vie est derrière moi. Voilà. Et donc, vous savez, c'est ce que dit Épicure, c'est pas le jeune homme qu'il faut dire bienheureux, c'est le vieillard qui a bien vécu, parce que moi, ce que j'ai vécu, personne ne peut me le prendre, la mort abolira le souvenir que j'en ai, évidemment, mais je l'ai vécu, si vous voulez, voyez. Et donc, il est normal d'être plus angoissé quand on est jeune, quand on a toute sa vie devant soi, avec tout ce qui peut se passer de tragique ou de dérisoire. Oui, hein. C'est ce qu'on disait en 68, tout est possible, même rien. Oui. Mais quand on a 18, 20 ans, le rien est encore le pire, si vous voulez, voyez. Et puis, vous inquiétez pour votre mère, après vous inquiétez pour vos enfants, d'autant que moi, notre premier enfant est morte, bébé, et donc ça rajoute encore pour les enfants qui viendront après d'autres angoisses. Et donc oui, j'ai quand même passé beaucoup d'années d'anxiété et de mélancolie. D'ailleurs, mon idée, c'est qu'une partie de ma stratégie personnelle a été de jouer la mélancolie contre l'angoisse. C'est-à-dire que, au fond, j'aime mieux affronter le chagrin derrière moi, qu'on appelle le deuil, que devant moi, ce qui est le propre de l'angoisse. Je suis très démuni face à l'angoisse et assez solide face au deuil. Et donc, il m'arrive des fois, comme je dis, d'anticiper le deuil. Quand le pire aura eu lieu, s'installer dans cette espèce de paix d'après la catastrophe, si vous voulez.
Donc pour vous, ce n'est pas remède à la mélancolie, c'est le remède de la mélancolie.
Oui, c'est la mélancolie comme remède contre l'angoisse. Alors, j'en fais pas une philosophie, hein, mais là j'essaye de...
Mais donc c'est une stratégie personnelle,
oui,
que vous avez trouvée.
Oui, stratégie pas choisie, pas élaborée, c'est plutôt en moi. Hein, je l'ai constaté rétrospectivement, mais qui n'est pas forcément sans rapport avec ce que j'appellerais en philosophie le désespoir. C'est-à-dire que mon idée, au fond, pour le dire en deux mots, c'est qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. La formule est de Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et que donc, dès qu'on vit dans la peur, on vit dans l'espérance. Dès qu'on vit dans l'espérance, on vit dans la peur. Et que de ce point de vue, celui qui n'espérerait rien n'aurait donc peur de rien. De même que celui qui n'aurait peur de rien n'aurait donc rien à espérer. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude et que j'ai appelé plus modestement le désespoir. Mais mon premier livre s'appellera, sera sous-titré « Traité du désespoir et de la béatitude ». L'idée étant que les deux vont ensemble ou sont les deux faces d'une même médaille. Alors c'est là où ma stratégie inconsciente, involontaire, non élaborée, ce que j'appelle jouer la mélancolie contre l'angoisse, a pu en partie contribuer à mon cheminement philosophique qui a consisté à jouer le désespoir métaphysique contre l'espérance religieuse, contre les utopies politiques. Et c'est là où je retrouvais au fond Albert Camus, c'est-à-dire qu'il y a évidemment quelque chose de désespérant dans la condition humaine, mais bien loin que ça nous voue au malheur, ça ouvre l'espace d'un certain bonheur pour celui qui accepte justement ce qu'il y a en effet de désespérant dans la condition humaine. Camus disait « Il est impossible de penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur ». J'en suis assez d'accord, moi je veux dire de même, il est impossible de penser le désespoir au sens où je prends le mot, pas la tristesse, mais l'absence d'espérance, le désespoir au sens métaphysique du terme, sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur. Et au fond, ce traité du désespoir et de la béatitude, c'était mon premier livre, Le Médicard, deuxième tome Vive, mais encore une fois, le sous-titre général étant inspiré de Spinoza et de Kierkegaard, mais jouant Spinoza contre Kierkegaard, le sous-titre étant « Traité du désespoir et de la béatitude ».
Mais quand ce livre sort, nous sommes en 1984, nous y reviendrons, André Comte-Sponville, mais là, après votre enfance, votre adolescence, vous avez cité mai 68, vous aviez 16 ans, ce qui correspond au moment où vous avez découvert en fait les pensées de Pascal. Donc là, il y a quand même deux chocs pour vous, c'est-à-dire que l'adolescence, le jugement de vos parents va de pair avec la découverte de la politique, la découverte de la philosophie, et aussi parce qu'on l'a pas encore, on l'a évoqué, mais vous ne l'avez pas encore développé, aussi la perte de la foi. Vous cessez de croire en Dieu à ce moment-là.
Oui, mais il y a aussi le passage de la vie de famille, si triste, si angoissante, au lycée, au collège, que j'ai adoré. D'abord, la découverte émerveillée de la féminité. Moi, j'étais dans une école primaire de garçons. Autrement dit, un mélange, un ramassis de petites brutes, bête et inculte. Et j'arrive dans un collège en sixième où il y avait des filles.
Mixte, donc.
Un collège mixte où il y avait des filles. Et j'ai été ébloui par ce mélange de finesse, de délicatesse, de douceur. Et c'est un émerveillement dont je ne suis pas sorti. Et donc, moi qui étais malheureux chez moi, j'ai adoré le collège, j'ai adoré le lycée. Pas pour le travail, j'étais un élève très médiocre jusqu'à la terminale, mais pour l'ambiance. Et d'abord pour cette
Ah oui, vous étiez un élève médiocre.
Oui, médiocre. Je n'ai jamais redoublé, mais ce n'était pas mieux que ça. Et puis, il y a mai 68. Et à nouveau, quel bonheur, quelle joie.
Comment ça s'est passé pour vous, mai 68?
Écoutez, j'étais un jeune...
Vous étiez engagé?
Non, totalement apolitique au départ. Mais je me suis réveillé, comme des milliers d'entre nous, d'ultra-gauche, vers le 13 mai 68 au matin. Parce que les CRS, dans les nuits précédentes, avaient tapé un peu durement, évidemment, sur des étudiants qui faisaient des barricades, rue Gay-Lussac et ailleurs au quartier latin. Et donc, heurté par les violences policières, et me suis trouvé d'autant plus d'extrême gauche que mon père était très à droite. Et que donc, la haine que j'avais contre mon père me portait, évidemment, politiquement à faire des choix opposés. Mais surtout, 68, c'est un souvenir de bonheur pour moi. On a mis le lycée en grève, on l'a occupé. Alors, on n'y dormait pas, mais on y est tous les matins. En plus, il faisait très beau ce printemps-là. Oui, donc, on passait la journée dehors, dans la cour du lycée. On déplaçait le banc pour qu'il reste toujours face au soleil. Et puis, c'était mis. Donc, il y avait la sensualité d'adolescents, garçons et filles. Et puis, il y avait ce rêve d'une révolution. Et puis, il y avait beaucoup d'enthousiasme, de générosité, de sincérité. Et un petit peu, évidemment, de niaiserie, d'immaturité, de panurgisme. J'ai crié, comme tout le monde, le 13 mai, j'étais à la manif, évidemment. J'ai crié CRS-SS, qui est sans doute le slogan le plus bête qu'on ait jamais pu inventer. Non seulement bête, mais scandaleux, injuste, idiot. J'en suis pas fier aujourd'hui, mais en même temps, je ne peux pas oublier ce souvenir de bonheur, d'enthousiasme et de lutte. Voilà, c'est-à-dire que prendre non seulement sa vie en main, mais essayer de prendre le destin de la société, voire de l'humanité en main, bah forcément, il y a quelque chose d'exaltant. Voilà, donc tristesse de l'enfance, joie de l'adolescence.
Donc une
tristesse
sortie de la
famille, joie du lycée.
Une sortie de la mélancolie.
Oui, alors avec un peu une part d'illusion, bien sûr. Alors on reparlera de politique plus tard, sans doute. Mais alors après avoir été gauchiste pendant quelques semaines ou quelques mois, avec mon ami Jean Salem, qui était mon meilleur ami de l'époque, dans le même lycée que moi, le fils d'Henri Allais.
Philosophe, Allais, spécialiste.
Jean Salem, spécialiste d'Épicure, il est mort maintenant, mais surtout était le fils d'Henri Allais, héros du combat anticolonialiste, hein, membre du Parti communiste algérien, torturé par les paras français, vivant en exil à l'époque en Tchécoslovaquie et en URSS. Et puis revenant en France, et donc avec Jean Salem, on a fini par se dire que le gauchisme était une impasse, qu'on ne pouvait pas prendre ça au sérieux. Et donc on est devenus militants de la jeunesse communiste, et puis on a tous les deux adhéré au Parti communiste français. Et donc je me suis battu avec enthousiasme encore au Parti communiste pour des lendemains qui chantent, et pour une démocratie avancée, comme on disait. Donc j'ai soutenu avec enthousiasme le programme commun de la gauche, signé en 77, si je me souviens bien. J'ai bien sûr soutenu François Mitterrand, donc, qui a été élu le 10 mai 81. Il se trouve que notre petite fille est morte le 7 mai. Et que donc, quand tous mes amis, très légitimement, faisaient la fête Place de la Bastille pour célébrer la victoire de la gauche, moi, j'étais malheureux comme jamais. J'étais en larmes. Ce qui n'annule bien sûr rien, ça ne dit rien sur la victoire de Mitterrand, mais ça relativise la chose. C'est-à-dire que j'avais pu croire un temps que la politique allait me guérir de la mélancolie, sauf que la politique ne guérit pas du malheur, quand le malheur vous frappe, si vous voulez. Et donc tout ça a fait une espèce de mixte un petit peu étrange. Alors ça ne m'empêchera pas de continuer à m'intéresser à la politique. Ça ne m'avait pas empêché de quitter le Parti communiste en 1980, parce que le Parti communiste avait approuvé l'intervention russe en Afghanistan, et ce que bien sûr je ne pouvais pas approuver, puis je savais que je ne voterais pas pour Georges Marchais. J'ai voté Mitterrand dès le premier tour, évidemment. Donc j'avais quitté le Parti communiste, mais il ne reste pas moins que voilà, cette conjonction des dates, bien sûr c'est le hasard, hein, mais que ma fille soit morte le 7 mai, donc 3 jours avant l'élection de François Mitterrand, ça m'a rappelé qu'au fond la politique ne suffisait au bonheur de personne. Voilà. Ce qui est évidemment vrai, hein, mais peut-être que dans mon enthousiasme de militant dans ces années 70, où j'ai milité énormément, hein, pendant des années, j'ai fait plus de politique que de philosophie en vérité, j'avais pu croire un instant un peu naïvement le contraire.
Merci beaucoup André Comte-Sponville, à demain pour la suite de ces entretiens.
Volontiers.
C'était À Voix Nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Patrick Muller, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Géraldine Mosna-Savoie disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.